Il ne faut pas être comme moi, hein. Il faut être comme soi. Et je pense que c'est déjà la première chose à réaliser, c'est que c'est important d'être soi-même. Il n'y a pas deux Patricia, il n'y a pas deux Cyril. Et c'est le plus qu'on est plus proche de sa vraie voix, de ses vraies valeurs, qu'on est capable de changer le monde. Il faut vraiment tenter de faire ressortir les particularités de sa propre personnalité et de ses propres expériences. Et je pense que c'est ça qui fait la différence.
Elle a représenté des clients dans les cas d'enlèvement internationaux d'enfants ou encore dans des dossiers où les sommes querellées avoisinaient les centaines de millions de dollars. Ses clients sont généralement des gens d'affaires, des professionnels, des dirigeants de grandes entreprises. Elle est reconnue, elle est respectée, elle est engagée, elle est impliquée. Elle a été la première femme noire associée principale dans un grand cabinet, un bureau national. Et quand je dis bureau national, je parle d'un bureau à l'étendue du pays Canada. Spécialiste du droit familial, mon invité dans ce numéro de Les Grandes Conversations est Patricia Fourcan, avocat émérite associé au cabinet Miller Thompson.
Bonjour Patricia.
Bonjour Cyril.
Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation malgré un emploi du temps très 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 chargé.
Absolument, c'est un plaisir, vraiment un honneur d'être ici avec toi.
Ben c'est vraiment non, l'honneur il est pour moi pour remettre les choses en place. J'aurais pu en présentant dire qu'il y a divers domaines d'expertise. C'est bon, on parle de divorce, on parle de garde d'enfants, j'ai parlé d'enlèvement d'enfants internationaux, congédiement, harcèlement sexuel. J'ai presque envie de dire que c'est le basique d'un avocat, sauf que de par la clientèle, il y a une différence. Mais ça, tu vas nous le dire tantôt. J'aurais pu rajouter les différents prix d'excellence reçus dans les universités, partout où tu es passé, Ottawa, Paris, Barcelone aussi, si je ne me trompe pas. J'ai un peu fait mes devoirs. Et puis, quoi, l'autre chose? Oui, sélectionné, par exemple, en 2018, dans la je pense que c'était la toute première cohorte des leaders, la cohorte Black Excellence, voilà. Et puis, quand j'ai parlé professionnel, bah, tu es aussi maman, maman d'un garçon.
Oui, un garçon de 15 ans.
Voilà, j'ai tout dit.
Non. Pas mal, beaucoup, effectivement. Il y a quand même pas mal qui a été dit. Donc, effectivement, avocate en droit de la famille, essentiellement. Donc, le droit de la famille, c'est tout ce qui a à faire au divorce, séparation, demande de déménagement à l'étranger avec des enfants, dossier d'enlèvement internationaux également. Une bonne partie de ma pratique est en droit international, mais okay. Dans un contexte droit de la famille. Donc, question de juridiction, conflit de législation. Et on représente effectivement Monsieur et Madame, tout le monde également, pas seulement les grands et les puissants de ce monde.
Que j'ai cité.
Mais on a une belle équipe, une grande équipe. Donc, on essaie vraiment de pouvoir représenter une variété de clientèle. Et surtout, moi, personnellement, venant de la communauté haïtienne et faisant partie de la communauté noire de Montréal, je veux vraiment pouvoir représenter ma communauté. Donc, on s'assure, de, dans la mesure du possible, d'être efficace et de pouvoir avoir un travail qui est à la hauteur des moyens.
On va donc essayer, tout le long de cette conversation, de cette jazette que nous avons tous les deux, de passer vraiment point par point. Tu l'as dit d'emblée, communauté haïtienne, donc tu es haïtienne, alors on dit souvent haïtienne canadienne, bref, tu es d'origine haïtienne, on va dire ça comme ça. La question toujours que je pose, le droit, comment tu découvres le droit? D'abord, tu es née en Haïti ou au Canada?
Je suis née en Haïti.
OK.
Et je dois dire que j'ai passé la moitié de mon enfance en Haïti, mais de manière un peu décousue. J'ai vécu en Haïti de 0 à 3 ans, de 9 à 12 et de 14 à 17 ans.
Les trous, là, c'était quoi?
Les voyages? C'était au Canada.
De... Oui, OK.
Au Canada.
OK. Et à quel moment, donc tu fais avec ce que tu viens de dire, d'emblée on voit que dès le début tu es déjà au niveau du Canada. J'ai lu quelque part que le droit n'était pas venu comme ça au hasard, c'est une tradition familiale.
Mon Dieu, vous êtes bien renseignée, tout à fait. Je suis la cinquième génération dans ma famille, à pratiquer dans le domaine juridique. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père également, tous ceux de la branche paternelle, mm-hmm. Ils étaient tous avocats juges de paix. Donc, pour moi, c'était
une obligation?
Non, pas du tout, au contraire. Okay. Mon père ne voulait pas que j'aille en droit puisque à cette époque, je me rappelle, je devais avoir environ 6-7 ans quand je lui avais exprimé mon désir d'aller en droit. On habitait à Ottawa. Il me dit, tu es au Canada et puis bon, tu es une immigrante, tu es une personne de couleur et c'est une profession assez fermée qui n'est ouverte que pour une certaine élite de la majorité. Donc, ça serait très, très difficile pour toi de pouvoir trouver et te développer une clientèle. Il serait préférable que tu ailles en médecine ou un autre domaine qui est plus ouvert, disons, à la diversité. Moi, je suis un peu têtue. Mm-hmm. Donc, quand on me dit que je ne peux pas faire quelque chose, j'ai encore plus le désir de me démarquer, de le faire et voilà. Donc, pour moi...
Mais quand ton papa le dit, c'est quel âge à peu près?
J'avais 6-7 ans.
Oui, 6-7 ans. Okay. Et là, d'emblée, tu dis, OK, c'est ce que je vais faire.
Oui, j'étais quand mais, même...
Non, désolé, mais pourquoi vouloir faire ce métier? Qu'est-ce qui t'attirait à 6-7 ans de dire, voilà, je veux faire ça?
Mais je pense que je pensais que j'avais toutes les aptitudes requises au niveau, évidemment, de la capacité à raisonner. J'ai toujours eu un certain esprit logique, capacité de s'exprimer tant à l'oral qu'à l'écrit, et aussi une volonté de défendre des causes. Je pense que les gens, souvent à l'école, les professeurs disaient, toi, tu devrais être avocate. Hein? Mm-hmm. Quand j'étais souvent présidente de classe et je défendais les étudiants de ma classe avec beaucoup d'ardeur. Voilà. Donc, j'ai pensé que ça serait un fit un peu naturel, même si j'avais de bonnes capacités au niveau scientifique, j'avais pas de la passion pour les sciences, alors que j'étais passionnée de tout ce qui était philosophie, littérature, théâtre, et je trouvais que c'était des qualités qui pourraient faire de moi une bonne avocate.
Mmh. Est-ce que, à ce moment-là, on parle de 6-7 ans, aujourd'hui, on dirait de toi que tu étais quoi, une élève travailleuse ou douée?
Surtout douée, je dois dire. Le travail est venu par la suite. Parce qu'effectivement, quand on a une certaine facilité à l'école jeune, on n'apprend pas autant l'effort. Alors que l'effort, c'est ce qui est le plus important. On peut être la personne la plus brillante. Si on n'a pas du cœur à l'ouvrage, on va vite atteindre les limites mm-hmm. de notre talent. Donc moi, c'est surtout quand je suis allée étudier à Paris, j'ai étudié à Notre-Dame-de-Sion, à Paris, qui était un des très, très bons lycées. Et je suis arrivée là avec quand même un peu de retard parce que j'étais en Haïti à l'époque avant de déménager à Paris. Et il y avait eu un coup d'État, toutes les écoles avaient fermé. Et ça faisait, donc j'ai raté
une bonne partie
de la scolarité à cet égard-là. Donc, en plus, c'était un niveau un petit peu différent à Paris. Donc, j'ai dû faire beaucoup de rattrapage, travailler des heures. Je commençais à travailler à 7 heures du matin, j'arrêtais de travailler à minuit. Tous les jours, du lundi au vendredi, puis le week-end, je me permettais un peu de loisirs, mais c'est vraiment à cette époque-là que j'ai appris l'importance de travailler et la rigueur nécessaire pour arriver à certains sommets académiques.
À Ottawa, on fait un bond dans le temps, à l'Université d'Ottawa, tu as un prix d'excellence en droit constitutionnel.
Tout à fait, oui.
Donc, a priori, on se dit, bah, elle va aller dans les lois. Aujourd'hui, tu es une spécialiste du droit familial. À quel moment se fait le switch?
Alors, c'est une histoire intéressante, hein, parce que c'est... En anglais, on dit « to do something out of spite ». C'est pour prouver. Comme je te dis, c'est un peu quelque chose dans ma personnalité. J'aime prouver aux gens qu'ils ont tort et les mettre à défaut. Donc moi, mon professeur de droit constitutionnel à l'époque avait tendance à être très méprisant et condescendant à mon égard quand je posais des questions que je savais être pertinentes et intelligentes. Son ton paternaliste à mon égard, voyant que j'étais une jeune femme, j'étais pas du tout allée dans des... j'avais pas fait un bac avant d'aller en droit. J'étais directement de l'équivalent du cégep à Paris, donc du lycée directement en droit.
Ouais. Mm-hmm.
Donc, j'avais jamais étudié l'histoire canadienne. Dans le système français. Donc, il pensait effectivement que j'étais une personne qui n'allait pas briller dans son cours vu les études limitées que j'avais faites. J'avais pas de premier bac, je connaissais pas l'histoire québécoise, l'histoire du Canada. Donc, j'ai voulu faire une petite surprise. Donc, je me suis mis en tête, j'ai décidé que j'allais obtenir le prix en droit constitutionnel. Et j'ai travaillé énormément. J'ai lu toutes les décisions de la Cour suprême en droit constitutionnel, tant en anglais qu'en français, parce que parfois les traductions n'étaient pas très précises, surtout à l'époque. Et j'ai fait des résumés de tous les cours, de toutes les décisions. Effectivement, j'étais très, très bien préparée. Donc, j'ai eu la meilleure note. Ce n'est pas parce que j'avais un intérêt particulier pour
c'est juste pour lui prouver.
Oui, effectivement.
Vous rendez compte déjà, hein? Têtu. Comment dire ça? Ne lui dites pas non.
Non, exact.
ambitieuse. Donc déjà, dès les premières années, tu te retrouves lorsque tu termines, tu rentres dans un premier cabinet Desjardins.
Oui, Desjardins du Charme.
Du Charme, oui, voilà. Il y a un choc. Est-ce que tu nous dis quelques mots sur ce choc quand tu rentres dans ce cabinet qui est pourtant ton premier job?
Oui, mais c'était un choc plus pour eux que pour moi.
Okay. Mais c'est un choc quand même.
Oui, parce que moi, je suis habituée à vivre dans un milieu très homogène. Tu es en droit, il n'y avait pas beaucoup de minorités visibles, il y avait très peu de noirs. Mais eux, chez Desjardins du Charme, ils n'étaient pas vraiment habitués à travailler avec...
Ils n'étaient carrément pas habitués.
Pas du tout, il n'y avait personne. Je veux dire, je pense qu'ils étaient à 95% québécois, comme on dit ici, de souche. Donc, il n'y avait presque aucun anglophone, aucun immigrant. Je pense que la plus grande minorité qu'ils avaient, c'était une personne qui était originaire d'Italie et l'autre dont les parents étaient originaires de l'Europe de l'Est. Donc, ça, c'était aussi loin qu'ils étaient allés en termes de diversité. Et donc, moi, j'arrive et donc, voilà. Donc, c'était une petite surprise pour eux. Et je pense qu'ils se sont posé la question à savoir, parce que c'est vraiment un excellent bureau, un bureau avec une excellente réputation. Et c'était devenu vraiment le bureau qui représentait l'élite québécoise francophone. Parce que pendant de très nombreuses années au Québec, il faut se le dire, hein, le droit était la chasse gardée souvent des anglophones et les Québécois francophones n'avaient pas nécessairement leur place dans les hautes sphères du monde juridique, surtout en droit des affaires. Et Desjardins Ducharme avait un peu, c'était vraiment taillé une place enviable à ce niveau-là. Donc, il y avait vraiment une identité reliée aussi au fait que c'était un cabinet francophone, québécois, qui représentait le Québec Inc. Donc, il y avait des questions à savoir, bon, comment est-ce que la clientèle va réagir à être représentée
par une femme.
Une femme migrante, une personne de couleur.
À l'époque, jeune aussi, il y avait aussi aspect-là. Tu es jeune à ce moment-là.
Oui, absolument. Mais ils embauchaient des avocats jeunes à chaque année. Oui. Hein. Mais c'est surtout le fait que j'étais immigrante, que j'étais noire. Donc, mais la personne qui m'a embauchée, Joanne Biron, elle était, il n'y aura pas de problème. Je veux dire, je connais ma clientèle, ce sont des gens ouverts, et c'est une fille talentueuse, brillante, et puis ça va très, très bien se passer. Donc, voilà. Donc, j'ai eu une offre d'emploi à la fin de mon stage, et je pense qu'ils ont réalisé que... il n'y avait rien de particulièrement menaçant que d'avoir des avocats noirs ou des employés noirs et que la clientèle réagissait bien. Après ça, ils ont embauché plein de gens. On a eu deux autres avocates noires qui ont été embauchées après moi, des secrétaires, des paralégales. Donc, il y a vraiment eu un shift, disons.
J'aime bien... cette réaction et expression que tu as eue quand tu dis le choc, il était pour eux, pas pour toi, parce que toi, il n'y a pas de problème, tu te connais, puis tu es habitué. Et c'est peut-être quelque chose, je le dis par rapport à ce que ça peut avoir aussi comme incidence aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, ben, peut-être dans ce type de situation, c'est de se dire que ben, c'est eux qui ont un problème, pas toi, la personne qui est minoritaire dans le lieu. Alors, comment...
Absolument, parce que nous, on est habitués à s'adapter aux deux réalités. On sait comment s'adapter en parlant à des Québécois francophones, anglophones, à des allophones. On est un peu passe-partout.
On est des mutants.
Tout à fait, on est passe-partout. Ouais. Ben alors que quelqu'un qui est face à une différence qui est nouvelle pour lui, ben il ne sait pas trop comment. Donc, comme tu dis, c'est pas notre problème, c'est à eux d'apprendre à nous connaître et à s'adapter. Hein. C'est l'intégration, c'est des deux côtés.
Des deux côtés, effectivement. Alors, en 2003, c'est ça, il y a Miller Thompson, qui fait, si je peux utiliser l'expression, qui fait la cour à l'autre.
Alors,
comment ça se passe avec le cabinet Miller Thompson?
Mais alors, Miller Thompson, à l'époque, s'appelait Pouliot Mercure.
OK. Qui fait plutôt québécois, ça.
Également, à l'époque, c'était un bureau plutôt québécois francophone. Mm-hmm. Et ils ont, je pense, eu un intérêt à développer leur secteur de droit de la famille. Donc, moi, j'étais avec encore Joanne Biron, donc l'associée qui m'avait embauchée chez Desjardins Ducharme. Donc, on a été en entrevue et je pense qu'ils ont aimé notre mentalité, nos valeurs et notre clientèle. Donc, on s'est joint à Pouliot Mercure en 2003. Et par la suite, ils ont fait une fusion avec un cabinet national, Miller Thompson, et puis voilà.
Et 5 ans après, tu deviens partenaire associé dans le cabinet. C'est un moment quand même particulier pour toi, mais quand on prend ta biographie, mais aussi pour, grosso modo, on va dire l'ensemble, tu es la première femme noire. Donc, ici au Québec, qu'on prend comme associé partenaire, qu'est-ce qui... Oui, talentueuse tu l'es, brillante tu l'es, mais quand on enlève ces deux qualités, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, la haute direction dit « Patricia Fourcan, on va en faire une partenaire, une associée ».
C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre que j'ai toutes les grilles d'analyse, mais je pense que, premièrement, c'est une détermination. Parce que, quel que soit... votre origine ethnique, être dans un grand cabinet, c'est extrêmement exigeant. temps en temps, que des heures travaillées, que des clients très exigeants qu'on a, une dynamique aussi très compétitive de performance. Donc, ce n'est pas tout le monde qui arrive à passer à travers les difficultés de travailler dans un grand cabinet. Donc, moi, il y avait ma détermination et le fait que je n'ai pas froid aux yeux et que je fais ce qu'il faut pour tenter, à la mesure de mes moyens, d'avoir une certaine réussite. Mais également, le fait, ce qui a aidé également, c'est le fait que j'avais une certaine clientèle et j'avais une expertise. Parce que moi, ce que je dis à tous les jeunes qui veulent se développer une pratique en pratique privée, en droit, il faut avoir, dans la mesure du possible, une certaine expertise. Comme ça, on peut approfondir nos connaissances dans un domaine de droit particulier, développer une compétence, une expertise qui serait recherchée. Mais également, c'est bien, c'est important aussi d'avoir une clientèle parce que ça nous donne une certaine liberté en ce qui a trait à ta carrière. Tu n'es pas dépendant nécessairement à 100% d'un associé senior qui vous donne des dossiers. Vous avez votre propre clientèle, ce qui est important. Hein. Si on veut devenir associé dans un grand bureau, ça aide beaucoup d'avoir une bonne clientèle. Et moi, j'avais toujours développé ma clientèle dès le jour 1 comme avocate. Je m'assurais d'aller dans des lunchs, dans des cocktails, de donner des conférences, d'aller à des conférences.
Le fameux réseautage.
Absolument. Mm-hmm. Ça, c'est très, très, très important. Et de commencer jeune. Parce que les gens disent, je vais développer mon expertise dans un premier temps. Après ça, je vais réseauter. Mais le problème, c'est qu'à partir de l'âge de 30-40 ans, les gens ont déjà un gros réseau. C'est difficile de créer des nouveaux liens avec les gens à partir d'un certain âge. Alors que quand les gens sortent de l'université, ils ont 23-24 ans, ils sont heureux d'acquérir un réseau de contacts, d'avoir de nouveaux amis. Donc, on peut vraiment se faire un beau réseau. Et moi, j'en avais vraiment besoin parce que quand moi, je suis arrivée jour 1 pour commencer mon stage chez Desjardins du Charme, je ne connaissais presque personne à Montréal. Moi, je n'avais jamais vécu à Montréal. J'avais deux sœurs qui habitaient à Montréal. Et mon fiancé de l'époque, et c'est tout. J'avais aucune relation.
Rien,
j'étais même pas allée dans une université québécoise. Donc, j'ai dû commencer vraiment presque à zéro en termes de réseau de contact. Et c'est ça qui m'a bien servi. Mais également, je pense qu'il y avait une volonté clairement exprimée des associés qui était vraiment du leadership du bureau d'avoir plus de diversité en tant que d'avoir des femmes à titre d'associés, parce que c'était un bureau qui avait beaucoup d'hommes associés et pas tellement de femmes associées. Donc, ils s'étaient dit qu'ils allaient vraiment pousser pour aider certaines avocates à se développer et de leur donner une chance d'accéder à la société. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire seul. On peut avoir tous les talents du monde, mais si on ne travaille pas dans une entreprise ou dans un cabinet où on prend une décision consciente d'aider ces gens à se développer, de leur donner des chances, des opportunités de se développer, c'est très, très difficile. Hein? On ne réussit pas seul. Hein? On a vraiment besoin de l'appui.
J'ai une multitude de questions à te poser. Okay. On va faire une petite pause, toute petite, et après je retrouve Maître Patricia Fourcan avec qui on a notre petite conversation.
Écoutez le podcast Les Grandes Conversations. Mon nom est Cyril Ekwala et je suis en compagnie de Patricia Fourcan, avocate au cabinet Miller & Thompson à Montréal.
Comment on se retrouve en droit familial dans un cabinet qui a une grosse comme ça étiquette de cabinet d'affaires?
Mais en fait, je pense que Miller & Thompson a cette particularité que d'être bien équilibré, cabinet d'affaires et litige. Okay. Donc, beaucoup de grands cabinets sont vraiment, mettent une emphase particulière sur le droit des affaires et n'ont pas un département de litige assez costaud. Alors que nous, on a un très, très, très bon département de litige. Donc, on est assez bien équilibré. Et aussi, on a un département de ce qu'on appelle en anglais « private client services », service aux particuliers, mm-hmm. qui est comme un family office, dans le sens qu'on va s'occuper tant de la fiscalité individuelle ou de la compagnie familiale, mm-hmm. on va s'occuper des testaments, peut-être également faire des gels successoraux. Donc, et le droit de la famille s'intègre très, très bien dans cette dynamique-là. Mm-hmm. Dans le sens que quand on fait un gel successoral, qu'on fait une réorganisation corporative, qu'on prend des décisions au niveau de la fiscalité pour une famille, pour une compagnie, il est très, très important de toujours avoir en tête l'aspect droit matrimonial pour voir comment les lois sur le patrimoine familial, les lois relatives au régime matrimonial peuvent influencer ou avoir un impact sur le patrimoine d'un client.
J'ai dit que Patricia Fourcan était une femme impliquée, une femme engagée. Et je voudrais qu'on aborde ce chapitre-là à travers peut-être des choses très concrètes. Ton nom est associé à, je vais appeler ça un projet, qu'on appelle Justicia. C'est quoi le projet Justicia?
Donc le projet Justicia, c'est un groupe de travail qui a été mis sur pied par le Barreau du Québec pour encourager et mettre les bases pour permettre le développement de la carrière des femmes, mais en pratique privée. Okay. Donc à titre d'avocat dans des cabinets d'avocats. Parce que beaucoup de femmes restent dans le domaine juridique, mais quittent les cabinets d'avocats pour aller travailler, par exemple, en entreprise ou aller travailler dans le gouvernement et ne deviennent pas nécessairement associés ou des leaders dans les cabinets d'avocats. Donc, on voulait vraiment, c'était vraiment relié au cabinet d'avocats et s'assurer qu'on leur donnait tous les outils et les opportunités pour pouvoir se développer leur carrière et devenir associés, qu'il n'y ait pas ce plafond de verre dans les cabinets d'avocats. Donc, beaucoup des grands cabinets à Montréal et même des cabinets de taille moyenne ont envoyé une représentante de leur bureau pour travailler sur ce projet-là. Donc, moi, j'étais la représentante de Miller Thompson et on a travaillé pendant plusieurs années à la mise sur pied de différentes politiques, de différents formulaires qui ont pour but d'apporter une structure que les cabinets peuvent prendre ces formulaires et après ça, avoir une structure, avoir des politiques internes qui favorisent le maintien des avocates dans la profession. Mm-hmm.
On voit que c'est ce que tu disais tantôt, hein, c'est-à-dire que c'est depuis le début, là, le premier cabinet où tu arrives, il n'y a peut-être pas assez de femmes, donc il y a cette implication. Tu l'as aussi dit, je le rappelle, que quelle que soit l'origine, de toute façon, le travail en cabinet, grand cabinet, est très difficile. Est-ce que ça peut être un obstacle pour les femmes? Je ne pense pas.
Non, en fait, ce n'est pas parce que le travail est difficile. C'est parce qu'à un moment donné, surtout quand on veut avoir une famille, mm-hmm. même si on est un couple plus égalitaire, moi, je peux dire d'expérience, la société est faite de telle sorte que les enfants s'attendent, comme moi, dans mon cas, moi, je parlais pour moi, mon fils s'attendait à une présence accrue de sa maman. Plus que son papa. Donc, lui, quand il allait à la garderie, beaucoup des mamans ne travaillaient pas. Donc, moi, son père n'a jamais dû avoir une conversation avec lui. Il n'a jamais dit à papa, pourquoi toi, tu travailles, tu ne t'occupes pas de moi à longueur de journée? Mais par contre, il a eu cette conversation avec moi. Ouais. Pourquoi tu n'es pas là pour moi? Pourquoi tu travailles? Toutes les autres mamans ne travaillent pas. Donc, il y a effectivement une responsabilité accrue familiale. Et quand tu dois faire des 1700, 1800 heures facturables et que tu veux être présente à la maison pour ton enfant, tu veux l'éduquer, surtout que moi, comme je dis, moi, j'étais la mère d'un enfant noir, un garçon noir au Québec, en Amérique du Nord, tu veux lui donner tous les outils. Tu veux qu'il soit intellectuellement préparé. Tu veux qu'émotivement, il y ait une sécurité émotive. Donc, tu ne peux pas être en train de travailler jusqu'à 10, 11 heures au bureau et puis juste laisser l'enfant dans les mains d'une nanny ou d'une grand-mère. Il a besoin donc d'une présence parentale et souvent c'est la femme ou la mère qui se retrouve à prendre un peu plus de responsabilités, parfois beaucoup plus de responsabilités eu égard à la famille. C'est là surtout que je pense qu'on voit la différence. Mm-hmm. Dans les premières années, il n'y a pas tant de différence entre les jeunes femmes, les jeunes hommes qui essaient de se tailler une place dans un grand cabinet. Mais quand ça vient le temps d'avoir des enfants, là, on se bat plus à armes égales. Mais également pour le développement de la clientèle. Il y a certaines femmes qui ne se sentent pas nécessairement très confortables. Comment, moi, je vais sortir et aller dîner avec un homme, surtout si je suis une jeune femme, il est un homme plus âgé, peut-être puissant. Est-ce qu'il va prendre la situation comme étant une volonté d'avoir une relation plus intime? Mm-hmm. Comment est-ce que je suis capable de créer des liens réels, solides, avec des gens du sexe opposé, sans pour autant avoir de l'ambiguïté.
Ça reste professionnel, oui, tout à fait.
Et on ne sait pas nécessairement comment le faire, on ne nous apprend pas nécessairement comment le faire. Et par exemple, moi, je disais toujours aux jeunes femmes, mais commencez par ne pas accepter d'aller dîner le soir. Hein, c'est mieux du lunch. Le lunch, c'est moins ambigu. Oui. Et c'est facile après ça de quitter. Mm-hmm. Il n'y a pas de « je te ramène chez toi mm-hmm. ». Est-ce que je... Non. Mm-hmm. Donc, il y a des petites... des exemples comme ça qu'on peut donner aux femmes pour leur expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de se développer la clientèle, mais qu'effectivement, il y a des risques réels pour les femmes quand on interagit parfois avec des hommes puissants et puis on doit savoir comment naviguer tout ça, alors que les hommes, regarde, on va aller à une game de hockey, mm-hmm. après ça, on va prendre une bière, après ça, on va aller au whisky. Mm-hmm. Et nous, on ne peut pas avoir nécessairement cette aisance à développer des liens. Donc, ça c'est un deuxième niveau de difficulté.
Mm-hmm. Je veux qu'on passe à un autre projet, mais avant ça, parce que tu en as parlé, est-ce que par hasard, le fils, il est en train de prendre la sixième génération ou il y a comme un break? Je sais, 15 ans, bon, on a encore plein de choses dans la tête, mais toi, c'était à 6-7 ans. Est-ce que ton fils, il prend le chemin de maman? Là?
Alors, mais en fait, c'est moi qui prends le chemin de mon père, qui lui a pris le chemin de son père. C'est-à-dire mm-hmm. que...
C'est paternel, alors.
Mon grand-père ne voulait pas que mon père soit avocat.
Ouais.
Il voulait que mon père soit médecin. Mm-hmm. Il a, en fait, commencé la médecine en Suisse. Mm-hmm. Et mon père a déçu mon grand-père et est devenu avocat. Et la même chose, mon père voulait que je sois médecin ou ingénieur et j'ai déçu mon père. Je suis devenue avocate. Et moi...
Tu ne veux pas qu'il devienne avocat?
Non, voilà. Pas du tout.
Donc, je crois voir déjà la sixième génération arriver. Tu as parlé de ce rôle de maman au Québec, à Montréal, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, qui élève un garçon noir et tout ce qui passe par la tête. Ça m'amène à ton combat, je dirais, pas contre, mais pour la diversité et contre le racisme. Si je prends l'année dernière seulement, j'ai compté quoi, minimum 3-4 lettres ouvertes que tu signais. La dernière, c'était pour un Québec exemple de racisme. Ça, c'était dans la presse en décembre. En juillet, c'était l'image toxique et fausse de sens même de l'identité haïtienne. Ça, c'est lié à la réponse à une chronique un peu, oui. Je dirais quoi, scandaleuse, on va dire ça comme ça. J'essaie d'être gentil. Ce combat de la diversité, il t'est, c'est d'ailleurs une redondance de le dire, mais c'est quelque chose qui t'est relativement cher.
Non, absolument. Et je pense que ça vient aussi du fait que je suis haïtienne et que nous étions la première République noire libre et qu'on a dû payer aussi très, très chèrement pour cette liberté. Donc, il y a toujours eu en moi une idée que malheureusement, être noir, être libre, c'est pas toujours apprécié par la société et qu'il faut se battre pour faire sa place au soleil, et surtout pour faire la place aux autres. Parce que, Dieu merci, moi j'ai été capable de développer ma carrière, mais souvent j'ai vu des gens brillants qui avaient autant de compétences, sinon plus que moi, ne pas être en mesure de faire leur place dans la société québécoise. Donc pour moi, c'était très, très important de m'assurer, d'ouvrir les portes, de m'assurer que la prochaine génération ait plus de facilité à faire sa place. Et aussi pour mon fils, pour moi, c'est important aussi que je puisse léguer, que nous puissions tous léguer à nos enfants une société plus égalitaire et moins raciste. Et aussi, en tant que mère d'un jeune homme, quand moi, je voyais à la télévision la violence faite aux jeunes hommes noirs par des policiers, j'étais vraiment profondément troublée. C'était pour moi à chaque fois un deuil immense. Donc pour moi, c'était quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité de se faire entendre finalement après l'affaire George Floyd, j'ai pensé que c'était vraiment le temps d'en faire la priorité numéro un dans ce combat contre le racisme et pour la création d'une société plus juste et égalitaire.
Patricia Fourcan, société plus juste et égalitaire, on va dire, d'accord, ça c'est pour l'ensemble de la population, ce qui est correct. Je voudrais parler du secteur qui est le tien, le domaine de la justice. Quand on dit justice, on dit ou communauté noire, il y a toujours un problème. Je vais présenter ça sous deux façons. La présence des noirs dans la profession, dans les professions juridiques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Québec, dans les professions juridiques au Québec, ça reflète aussi la présence des noirs dans la communauté?
Pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout représenté dans la profession juridique en général par rapport au poids de la communauté noire à Montréal en particulier. On n'est pas assez bien représenté dans les grands cabinets et encore moins au niveau de la magistrature. Il y a une sous-représentation tout à fait inacceptable dans cette profession parce que c'est une profession très beaucoup plus fermée. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est une des professions qui s'est le moins diversifiée. Je dois dire que c'est vraiment dans les 10 dernières années que la profession a commencé à s'ouvrir à des gens d'ethnies différentes, surtout au niveau des Noirs. Moi, je dirais qu'il y a très, très peu d'avocats de 20 ans d'expérience ou plus qui travaillent aujourd'hui dans des grands cabinets. Je dois être l'une des seules. Par contre, il y a une nouvelle génération, des gens de 7, 8, 9 ans qui commencent à devenir associés. Donc, c'est tout nouveau et puis on encourage et on veut que ça aille dans la bonne direction. Mais encore là, c'est un certain niveau de diversification, si on veut dire. Mais alors, si on parle de la magistrature, là, c'est presque inexistant dans la représentation.
Dans les cabinets privés, je peux comprendre. Après, ça, c'est le libre choix des dirigeants, du leadership. Oui. Mais dans la magistrature, qui est le service public, c'est de ton point de vue, qu'est-ce qui coince?
Voici, je pense que les difficultés sont de deux ordres. Dans un premier temps, c'est très, très difficile de se développer comme plaideur aguerri si on n'a pas eu des bons mentors, d'accord? Donc, si on n'a pas pu travailler avec des grands juristes, avec des grands plaideurs, c'est très, très difficile de devenir soi-même un très grand plaideur. Donc, déjà, dans un contexte où il y a 20 ans, c'était presque impossible pour que des Noirs puissent être embauchés dans des cabinets de prestige, ben c'est pas difficile que 20 ans après, il y a presque personne qui ait le calibre voulu pour atteindre la magistrature. Mais après ça, il y a également le fait que quand on plaide et qu'on est noir, on n'a pas nécessairement le même accueil que si c'était un avocat blanc qui plaide. Donc, c'est facile après ça de se dire, bon, cet avocat n'a pas le niveau, mais c'est parce qu'on l'a déjà traité au départ comme si elle n'avait pas le niveau et chaque argumentation que fait cette personne-là parfois est perçue, n'est pas très bien reçue. Parce que disons que si un juge se trompe, d'accord, il se trompe et il comprend mal le dossier. Si un homme blanc respectueusement à la cour, vous n'avez vraiment rien compris, hein? Mais voilà comment ça se passe, voici les faits au dossier. C'est déjà beaucoup mieux reçu par la magistrature qui, par contre, si les mêmes mots sont dits par un homme noir, une femme noire, peut être outré et après ça sortir de la cour et dire, ah, cette avocate-là, elle ne devrait jamais devenir juge. Elle n'a pas de respect pour la magistrature. Vous comprenez ce que je veux dire?
Tout à fait.
Donc c'est, et même pour les femmes, c'est un... On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit, le ton doit toujours être parfait. Si on a un ton un peu trop élevé, on est des « angry black woman », hein, encore là, on ne peut pas gérer ça, c'est ingérable, une femme comme ça. Donc, ce qui rend encore plus difficile l'idée que, après ça, parce que ce n'est pas des gens noirs qui vont décider si cette personne noire a la capacité pour devenir juge. Il n'y a pas de jury de pair, ce sont des blancs qui vont entre eux décider si cette personne noire a ce qu'il faut pour devenir juge. Et la réponse, en général, c'est non.
Je ne vois pas beaucoup d'espoir dans ce qui vient d'être dit. Je me dis qu'il y a encore du travail, bien évidemment, comme dans toutes les dans différents domaines, dans toutes les sphères. Mais je voudrais qu'on termine avec une association née, de ce que je comprends, il n'y a pas longtemps, c'est l'Association des Canadiennes des avocats noirs. Donc, il y a un volet québécois ou un volet du Québec dont tu es trésorière. Quel est l'objectif de cette association?
Donc, c'est Cable Québec qui a été créé par certains leaders de la communauté noire de Montréal en particulier. Et l'idée, c'est de pouvoir représenter notre population, notre communauté, à défendre ses droits, tant les droits des avocats noirs que les droits de la communauté noire du Québec. Et comme vous le savez peut-être, on a écrit des lettres.
Dans le cas Mamadi Camara, par exemple.
Absolument, absolument, que nous avons rédigé pour un peu dénoncer cette situation, mais également l'affaire Yeboah. Je ne sais pas si vous êtes au courant, un avocat noir qui a été arrêté, interpellé pour des raisons un peu particulières et traité de manière inacceptable. Donc, tout ça, c'est de dénoncer ces actes-là pour s'assurer que lorsqu'il y a une atteinte aux droits de la personne en ce qui concerne la communauté noire, qu'il y a des voix qui se lèvent et qui faire passer un message clair à l'effet que on n'accepte pas que nos droits soient bafoués, on n'accepte pas le profilage racial et nous avons droit au même respect. Et au respect de notre droit que tout autre citoyen québécois. Donc, c'est vraiment notre but, mais également en ce qui a trait aux avocats, aider au développement de leur carrière, les aider au niveau des relations publiques, du réseautage. Donc, on espère pouvoir faire un petit bout de chemin, puis aider cette question-là au Québec.
Merci beaucoup, Patricia Fourcan, pour ce petit moment qu'on vient de passer. Je vais juste finir en te demandant qu'est-ce qui fait que quelqu'un vienne te voir comme avocate et te dit « je veux que vous me défendiez ».
Je pense que j'ai la réputation d'être très modérée dans mes approches, c'est d'avoir vraiment une vision à long terme et une vision globale de la famille. Dans le sens que, dans la mesure du possible, je travaille très fort pour tenter d'en arriver à des ententes, à l'amiable, et ce, dans le respect. Et ne pas nécessairement utiliser l'intimidation pour régler, quand c'est nécessaire d'aller devant les tribunaux, et puis d'utiliser tous les outils de la loi, ben on le fait. Mais quand les gens montrent une volonté de régler de bonne foi, on est tout à fait disposé à s'asseoir et à éviter des frais d'avocat importants et surtout un litige. Les litiges sont longs, sont acrimonieux et ne peuvent que détruire plus amplement une famille qui est déjà mise à épreuve par une séparation. En soi, une séparation, c'est extrêmement douloureux. La moindre des choses qu'on peut faire, c'est de travailler fort pour s'assurer que les enfants soient mis à l'abri d'un litige, que les parties arrivent. Je dis toujours, on a le droit d'avoir échoué un mariage, de ne pas avoir réussi à maintenir une union, mais on peut réussir notre séparation et on peut avoir de très, très, très belles relations post-divorce, post-séparation avec l'autre parent. Et on aime beaucoup accompagner les gens pour qu'ils arrivent à cela.
Je sais que tu es une mentor, tu es un modèle. à la jeune femme qui dit je veux être comme Patricia Fourcan demain ou je veux être comme elle comme avocate, tu lui dis quoi?
Mais il ne faut pas être comme moi, hein? Il faut être comme soi et je pense que c'est déjà la première chose à réaliser, c'est que c'est important d'être soi-même. Il n'y a pas deux Patricia, il n'y a pas deux Cyril. Et c'est le plus qu'on est plus proche de sa vraie voix, de ses vraies valeurs, qu'on est capable de changer le monde et de vraiment connecter, d'arriver à avoir des relations vraiment étroites et spéciales avec les gens. Il ne faut pas avoir peur d'être très, très... très, très réel, d'être soi-même, ne pas essayer de se camoufler sur un pseudo-image professionnelle. Il faut effectivement être rigoureux, être travaillant, mais il faut être genuine. Il faut vraiment tenter de faire ressortir les particularités de sa propre personnalité et de ses propres expériences. Et je pense que c'est ça qui fait la différence.
Merci beaucoup, Patricia. Merci. Je rappelle encore, avocate au cabinet Miller Thompson.
Merci, Cyril.
Et puis, on se suit.
Absolument, merci. Okay.
Merci.
C'est un plaisir.
Mon nom est Cyril Ekwala. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Les Grandes Conversations. N'hésitez pas à partager, à liker ou encore à commenter.